بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، mes frères, mes sœurs, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne peux que dire que ça me réjouit et ça me fait un grand plaisir de revenir dans cette mosquée après ces quelques, voire plusieurs mois d'absence. Et vous revoir, vous les frères et les sœurs que je n'ai rencontrés que pour Allah et que je n'ai aimé que pour Allah Azza wa Jal, ça me fait un grand plaisir. Ala kulli hal, le sujet qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui, c'est, comme le frère Mustafa l'a rappelé, ash-shirk, l'idolâtrie, l'association à Allah, le fait d'associer à Allah. Ash-shirk, le fait d'associer à Allah, le fait de prendre, de considérer qu'Allah puisse avoir un associé ou un égal dans l'adoration ou dans autre chose. Le fait d'adorer autre qu'Allah, d'implorer autre qu'Allah, de placer sa confiance en quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Le fait aussi, ça fait aussi partie de l'idolâtrie et de la mécréance, le fait de nier purement et simplement l'existence d'Allah Azza wa Jal. C'est de ce sujet qu'il s'agit d'aujourd'hui, Sans aucun doute, comme le frère nous l'a rappelé en guise d'introduction, ce sujet est très important, mais il est à la fois important et très grave. Quand on parle du shirk, on parle de quelque chose d'important, dans le sens où c'est un sujet important, mais on parle de quelque chose de très grave. Très grave parce que le shirk, c'est le contraire de ce qui nous a été demandé de faire durant toute notre vie. Le shirk, l'idolâtrie, l'association à Allah, la mécréance, c'est le contraire du sens de notre existence. C'est le contraire du tawhid, l'unicité d'Allah. Le contraire et l'inverse du monothéisme. C'est pour le monothéisme et uniquement pour lui que nous avons été créés. C'est pour le monothéisme et uniquement pour lui qu'Allah Azza wa Jal nous demande de vivre et de mourir. On comprend donc et on prend donc conscience de toute l'importance de ce sujet, mais aussi de la gravité de cet acte, l'association à Allah. Beaucoup de gens voit l'association à Allah comme quelque chose qui appartient au siècle passé, ou en tout cas s'il existe aujourd'hui, ça existe juste dans certaines contrées en Inde ou je ne sais quoi. Et comme on va le voir tout au long de cette intervention, le shirk, l'association à Allah, peut être beaucoup plus sournoise. Elle peut même être très répandue, malheureusement, parmi les fidèles de notre communauté. Et c'est pourtant l'inverse, la contradiction du sens du message divin. C'est un sujet très grave parce que, comme vous le savez, le shirk, c'est le plus grand des péchés. Il n'y a pas péché plus grave que le shirk. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit « Sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam » أي الذنب أعظم يا رسول الله. J'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quel est le péché le plus grave, ô messager d'Allah? Faqala li an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ay an taj'ala lillahi sharikan wa huwa khalaqak. Le péché le plus grave, c'est de prendre un associé pour Allah, de mettre un égal à Allah, de mettre quelqu'un au même niveau qu'Allah. C'est le péché le plus grave. Alors que c'est Allah tout seul qui t'a créé. C'est lui uniquement, exclusivement qui t'a créé, qui te donne tes subsistances. Et c'est de lui uniquement que tu dépends. Comment alors après ça, tu pourrais prendre un associé à Allah Azza wa Jal? La seule chose qui nous a été commandée, ou plutôt la chose principale qui nous a été commandée de faire, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal exclusivement. Et de rejeter l'idolâtrie, l'association à Allah sous toutes ses formes, qu'elle soit apparente ou cachée. Allah Azza wa Jal dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Il ne leur a été commandé, c'est-à-dire aux hommes, à nous, il ne nous a été commandé que quoi? Que d'adorer Allah Azza wa Jal uniquement en lui vouant un culte exclusif. Voilà ce qu'il vous a été commandé. Et ensuite vient wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat. Et qu'ils s'acquittent de leur prière et qu'ils donnent la zakat. Mais si tu fais la prière, et si tu donnes la zakat, et si tu fais répandre le bien autour de toi, mais que tu ne pratiques pas l'unicité d'Allah, ça ne sert absolument à rien. Il n'y a aucun bien dans une vie, dans la vie d'un individu, qui n'a pas su reconnaître et revendiquer et appliquer l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est un sujet grave parce que le shirk, l'association à Allah, l'idolâtrie sous toutes ses formes, c'est la plus grande des injustices. C'est la plus grande des injustices. Parce que c'est une injustice qu'on commet envers l'idée d'Allah Azza wa Jal. Envers le droit qu'Allah Azza wa Jal a sur nous. On ne respecte pas le droit qu'Allah Azza wa Jal a sur nous. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Inna shirka la dhulmun azim. L'association à Allah, le shirk, c'est une grande injustice. C'est la plus grande des injustices. Même si tu es injuste envers les individus, et notre religion rejette l'injustice sous toutes ses formes, eh bien ça n'a rien à voir avec le fait d'être injuste envers Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire le fait de ne pas croire en lui, ou le fait de lui associer quelque chose ou quelqu'un. C'est la plus grande des injustices. À un tel point que le terme injustice dans le Coran, les mufassirun, les exégèses, qu'est-ce qu'ils nous expliquent? Ils nous expliquent que dans le Coran, dans le style coranique, le terme zulm et zalim, le terme injustice et les personnes injustes, qui, quand c'est utilisé dans le style coranique, ça désigne l'idolâtrie. Ça ne désigne pas forcément toutes les injustices comme on l'entend. Ça désigne l'idolâtrie, le fait d'associer à Allah. Et quand on dit les injustes, quand Allah Azza wa Jal parle des injustes, il parle en premier lieu de ceux qui associent à Allah. Ceux qui mettent un associé à Allah Azza wa Jal. Ce péché, al-shirk, et donc ce sujet, est également très grave. Parce que le shirk, c'est le péché qui est impardonnable par excellence. C'est le péché impardonnable. Allah Azza wa Jal dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque associe à lui. N'importe quelle personne qui meurt en ayant associé à Allah, Allah ne lui pardonne pas. Allah le prive de son pardon, de sa miséricorde. Wa yaghfiru. Mais il pardonne. Ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne tout ce qui est en dessous de cela, tout ce qui est en dessous du shirk, tous les autres péchés, à qui il veut. Les savants nous expliquent que ça veut dire que tous les péchés, Allah Azza wa Jal, il les pardonne, évidemment quand il y a repentir. Mais même s'il n'y a pas repentir, Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, dans son immense miséricorde, dans son immense générosité, s'il décide de pardonner à quelqu'un, même s'il ne s'est pas repenti de son péché, il lui pardonne. Mais cette chose-là, il ne la fait pas pour quelqu'un qui a idolâtré, qui a associé à Allah. C'est ça que ce verset veut dire. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en parlant de ce verset, il dit que ce verset prouve, quand Allah azawajal dit « Allah ne pardonne pas à quiconque commet le shirk », il dit « même le petit shirk ». Parce qu'il y a l'idolâtrie majeure et l'idolâtrie mineure, le grand et le petit. Il a dit « même le petit ». Parce que ce verset parle du shirk en général. Qu'il soit grand ou petit, Allah azawajal ne le pardonne pas. À un tel point, la majorité des savants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent le petit shirk. La petite idolâtrie, celle que on ne remarque même pas, celle qu'on n'a même pas l'impression que c'est du shirk, celle-là, c'est plus grave que la plupart des grands péchés. Le petit shirk est plus grave que la fornication et l'adultère. C'est ça que ça veut dire. Et donc, évidemment, ça nous amène à parler des sortes de shirk. Comme on l'a dit, il y a le grand, al-shirk al-akbar, le shirk majeur, et il y a le petit, al-shirk al-asrar, le shirk mineur. Le shirk majeur, le grand shirk, qu'est-ce que c'est? Le grand shirk, c'est ce qui vient tout simplement contredire, casser l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le monothéisme. Pour comprendre ce qui vient casser l'unicité, il faut comprendre ce que c'est que l'unicité. Les savants nous ont dit que l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le tawhid, il se subdivise en trois parties. La première, tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. La deuxième, tawhid al-uluhiyyah, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, dans la divinité. La troisième, tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans les noms et les attributs. Tout ce qui vient casser ça, c'est le grand shirk. Tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est l'unique seigneur. Il est l'unique roi. Il est l'unique créateur. Il est l'unique gérant. Il est le seul qui donne les subsistances. Celui qui considère que c'est quelqu'un d'autre qui crée. Celui qui considère que c'est quelqu'un d'autre qui donne les subsistances. Celui qui considère que c'est quelqu'un d'autre qui a tous ses pouvoirs, il a commis le plus grand des shirks, le grand shirk. Le shirk dans l'unicité de la seigneurie. Tellement ce shirk est grave, même les polythéistes à la Mecque, au temps du prophète Hassan, ne pratiquaient pas ce shirk-là. Ils pratiquaient le shirk dans l'adoration. Ils adoraient avec Allah autre qu'Allah, mais ils reconnaissaient qu'Allah était le seul à pouvoir créer. Wala in sa'altahum, comme le Coran dit, wala in sa'altahum, man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaqulunna Allah. Et si tu les questionnais, c'est-à-dire les polythéistes de la Mecque, si tu les questionnais, qui donc a créé les cieux et la terre, ils te diraient c'est Allah. Il faut donc faire très attention. Ça veut dire qu'ils étaient ils étaient malgré tout polythéistes. Mais ils revendiquaient le fait que le seul créateur c'est Allah. C'est pour ça qu'on se fait une fausse idée du shirk. On pense que le shirk c'est juste se prosterner devant une statue. Juste adorer un autre dieu. Non. Le shirk est bien plus sournois que ça. Le shirk se cache pour s'infiltrer dans notre communauté. La deuxième catégorie de tawhid, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. L'adoration d'Allah. Le fait qu'il faut vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. On n'adore que lui. Il y a deux sortes d'adoration pour résumer. Les adorations apparentes et les adorations cachées. Les adorations apparentes, ce sont celles qu'on fait avec les membres de notre corps. Comme la prière, c'est une adoration apparente. On la voit, le commun des mortels voit que nous prions. Et les adorations cachées, ce sont les actes que nous faisons avec notre cœur, les sentiments, tels que la crainte, l'amour, le fait de placer sa confiance en Allah. Tout ça, ce sont des adorations. Et elles doivent être vouées exclusivement à Allah. C'est ça le tawhid. Et si, dans ces sentiments, dans ces adorations du cœur, on met une place pour quelqu'un d'autre, alors on a pratiqué le shirk. Et pas comme certains le pensent, le petit, mais le grand. On parle toujours du grand shirk. Le grand shirk. Celui qui aime quelqu'un d'autre plus qu'Allah.
ou comme il aime Allah, il a pratiqué le grand shirk. C'est aussi grave que ça. C'est ça le shirk. Celui qui place sa confiance en quelque chose ou en quelqu'un plus qu'Allah, ou comme il la place pour Allah, il a pratiqué le grand shirk. Celui qui craint quelque chose ou quelqu'un plus qu'il ne craint Allah, ou comme il craint Allah, il a pratiqué le grand shirk. On n'est pas encore arrivé au petit shirk. On parle du grand shirk. D'où la gravité de ce sujet. Et l'importance de s'intéresser à ce sujet. Parce qu'elle touche bien des individus et on s'en rend même pas compte. Ensuite, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans les noms et les attributs. Le grand shirk, c'est aussi démentir, nier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou mal les utiliser, comme quelqu'un qui comparerait Allah Azza wa Jal à sa création. Ou l'inverse, qui comparerait la création à Allah Azza wa Jal. Et aussi, dans le grand shirk, il y a le fait de légiférer en dehors d'Allah, de rendre licite et illicite, alors que la religion a fait l'inverse. On fait l'inverse de la religion dans la lycéisation et dans le fait de rendre illicite. Ça aussi, ça appartient au grand shirk. Et évidemment, comme on l'a vu, le grand shirk, il y a ce qui est caché dans le cœur. On ne voit pas, on ne s'en rend pas compte. Ce n'est pas quelqu'un qui se prosterne devant quelqu'un. On croit que le shirk, c'est se prosterner devant quelqu'un. Non. Le fait de penser que uniquement ce médecin a le pouvoir de me guérir et j'oublie que c'est Allah qui détient ce pouvoir, c'est comme si je m'étais prosterné devant lui. C'est la même chose. Donc, il y a le shirk. Dans le grand shirk, il y a le shirk caché et le shirk apparent. Mais aussi, d'autres catégorie, il y a aussi dans le grand shirk le shirk dans la parole et le shirk dans les actes. On passe maintenant au shirk mineur, le petit shirk. Le petit shirk, c'est tout ce qui est un moyen ou une cause qui va nous conduire au grand shirk. Tout ce qui est un moyen ou une cause de nous conduire au grand shirk, mais ce n'est pas encore le grand shirk. C'est quoi ça? C'est le petit shirk. C'est le shirk mineur. Par exemple, quelqu'un qui considérera que les talismans, par exemple, ceux qui portent des talismans et qui considéreront que ce talisman, ils diront pour certains, pour se justifier, je sais que c'est Allah qui guérit, c'est pas le talisman, mais je l'utilise comme cause. C'est une cause pour que Allah me guérisse. Les savants disent ça, c'est du petit shirk. Pas le grand, parce qu'il dit qu'il ne considère pas que c'est lui uniquement qui va le guérir, mais il l'a pris comme cause. Il pense que ce talisman, qui est un bout de papier ou un bout de ferraille, est une cause pour pouvoir le guérir. Ça fait partie du petit shirk. Et aussi tout ce que la religion a cité comme péché dans la parole ou les actes, et elle les a mentionnés comme étant du shirk, comme le fait de jurer par autre qu'Allah. Le fait de jurer par autre qu'Allah. Quelqu'un qui jure par autre qu'Allah, il a commis le petit shirk. Il peut commettre le grand shirk en jurant par autre qu'Allah. S'il jure par autre qu'Allah en pensant vraiment que cet autre qu'Allah est au même niveau qu'Allah ou plus qu'Allah, là c'est le grand shirk. Mais on parle du fait que quelqu'un a l'habitude de jurer par autre qu'Allah sans s'en rendre compte, sans prendre conscience de la gravité de son propos, il a commis le petit shirk. Et comme nous avons dit, selon Ibn Taymiyyah rahimahullah, ça fait partie de ce que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, il ne pardonne pas ce péché-là sans repentir. Il faut se repentir avant de mourir de ce péché-là, même le petit shirk. Aussi, le fait de faire un acte, on le fait certes pour Allah, on le fait par crainte d'Allah, mais on le fait aussi un petit peu pour le bon vouloir des gens, pour gagner un intérêt. Ça fait aussi partie du petit shirk. Et si l'acte en entier est fait pour autre qu'Allah, là, ça fait partie du grand shirk. Le fait aussi, dans certaines paroles, certains ne se rendent pas compte. Quand ils vont dire, c'est grâce à toi que ma situation s'est soulagée. J'étais dans la peine et tu es venu, tu m'as sauvé. Ça fait partie du petit shirk. Et ça peut faire partie du grand shirk s'il considère vraiment qu'il n'y a que lui qui l'a aidé dans cette situation. S'il oublie que c'était juste une cause qu'Allah Azza wa Jalla a mis sur son chemin, ça fait partie du grand shirk. Et combien de fois on fait cette erreur? Et même le fait de dire c'est grâce à Allah et toi, ça fait partie du petit shirk. Parce que quand on dit et, on le met au même niveau qu'Allah. C'est grâce à Allah et toi que je réussis à me tirer de cette situation. Non, c'est grâce à Allah, puis toi. Allah Azza wa Jal t'a utilisé toi pour m'aider. Nous, on doit apprendre à parler pour ne pas pratiquer le shirk. Mais aussi, lorsque quelqu'un est en face de nous et nous dit quelque chose de la sorte, on ne doit pas être content parce que c'est un compliment. Au contraire, on doit le corriger et lui dire « Non, moi, j'ai rien fait. C'est Allah. Il m'utilise comme il veut. Je m'éduque, moi, à ne pas avoir l'orgueil, à rester modeste, et j'éduque mon frère à ne pas tomber dans le shirk. » On raconte à propos d'un poète andalou qui est parti voir un calife, et à l'époque où les califes vivaient dans le luxe, ils aimaient les poètes. Ils aimaient que les poètes viennent leur faire des compliments à travers leurs rimes et leurs prose. Et ils les payaient pour ça. Donc c'était à qui arrivera à citer les meilleures rimes, le meilleur poème, pour faire le compliment de ce calife, pour avoir le plus d'argent possible. Et on raconte qu'à un moment, ça arrivait à un tel point qu'un poète est venu, un poète andalou, il est venu devant le calife et il lui a dit ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. Ce que tu veux toi, non pas ce que veut le destin. Gouverne et juge donc, car tu es l'unique, le Tout-Puissant. Après, bien sûr, quand on demande des explications, mais c'est un poème, c'est une métaphore. Les savants de l'époque l'ont rendu mécréant pour cette parole. L'excès. Et comme on va le voir tout à l'heure, l'excès est une cause qui amène à l'idolâtrie. L'excès dans l'admiration, l'excès dans l'amour des personnes. Et ici aussi, le shirk mineur, il y a celui qui est apparent, celui qui est caché, et aussi dans les paroles et les actes. Donc pour résumer, on a 6 sortes de shirk. Le majeur, le mineur, dans les paroles, dans les actes, l'apparent, le caché. On en vient à notre sujet. Notre sujet, c'est comment éviter ce grave péché. Comment éviter le plus grave des péchés? Tout d'abord, l'éviter par son contraire. Tu veux éteindre le feu? Prends ce qu'il éteint, l'eau. Tu veux mettre un terme au shirk? T'éloigner le plus possible de lui? Alors approche-toi le plus possible de son contraire, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, at-tawhid. Le monothéisme. Vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Quand tu feras ça, tu t'éloigneras le plus possible du shirk. La parole de l'unicité, c'est La ilaha illallah. Nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ça implique quoi? Ça implique qu'on l'apprenne, qu'on l'enseigne, qu'on la médite, qu'on la comprend, qu'on l'aime, qu'on s'y soumette. Ça implique tout ça. Ça n'implique pas juste que j'atteste, que je répète cette parole à longueur de journée sans comprendre son sens. Et c'est pour cela que les polythéistes de la Mecque au temps du prophète Hassan refusaient catégoriquement d'attester. Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre? Dites la ilaha illallah. Mais ils refusaient catégoriquement parce qu'ils avaient compris le sens de cette parole. Ils avaient compris ce que cette parole impliquait. Ça impliquait qu'il devait arrêter, cesser de mettre des intermédiaires ou des égaux à Allah Azza wa Jal. Leurs statues et leurs pierres et leurs bouts de bois. Il devait mettre un terme à ça et il refusait de changer ce mode de vie. C'est pour cela que lorsque l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, a réuni les notables de la Mecque et il a réuni son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a tenté une dernière fois avant de mourir de les réconcilier, ils ont dit, les notables de la Mecque, ils ont dit qu'ils cessent d'insulter nos divinités. En parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils cessent donc d'insulter nos divinités. C'est-à-dire qu'ils cessent de dire la ilaha illallah. Pour eux, c'était une insulte envers leur divinité. Qu'ils cessent d'insulter nos divinités. Et nous cesserons de l'oppresser. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit à ce moment-là, il a dit à son oncle, Mais je ne leur demande qu'une seule chose, une seule parole. S'ils la prononcent, s'ils attestent de cette parole, grâce à cette parole, ils auront le dessus sur toutes les tribus et ils gouverneront toute la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela parce qu'il savait que les notables de la Mecque étaient des gens qui aimaient le pouvoir. Si c'est vraiment le pouvoir que vous voulez, eh bien venez vers la vérité, parce qu'avec la vérité, non seulement vous serez sincère envers Allah, et en plus vous aurez le pouvoir. Mais si vous restez là où vous êtes, vous n'aurez que l'inverse de ce que vous cherchez. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمُ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont la foi et n'ont pas mélangé leur foi à une quelconque injustice. C'est quoi l'injustice dans le style coranique? L'idolâtrie. Ceux qui ont la foi et n'ont pas mélangé leur foi à l'idolâtrie, ce sont eux qui ont véritablement la sécurité et qui seront les bien guidés. Donc le prophète Hassan leur a dit, je ne vous demande qu'une parole. Alors les notables de la Mecque, ils ont dit, tout ça pour une parole? Mais si tu veux une parole, dis-nous. Nous, on va t'en donner des dizaines de paroles. Il leur a dit, قولوا لا إله إلا الله. Dites لا إله إلا الله. Et tous, d'un coup, ont pris peur. La parole leur faisait peur, elle les terrifiait. Ils ont fait marche arrière et certains d'entre eux ont arraché leurs vêtements pour montrer comment ils étaient en désaccord avec cette parole. Donc, si on veut s'éloigner du shirk, il faut se rapprocher de tawhid. Et la seule manière de se rapprocher de tawhid, c'est multiplier ses actes d'adoration et le vouer uniquement pour Allah Azza wa Jal. Apprendre le tawhid et l'enseigner. Et appeler les gens au tawhid. Deuxième chose, l'éducation. L'éducation. S'éduquer soi-même. Éduquer ses enfants. Et éduquer les autres. Et nous éduquer entre nous dans cette voie. La voie de l'unicité. Pour s'éloigner du shirk. On éduque nos corps, mais aussi nos cœurs. À n'aimer qu'Allah. À ne placer une confiance totale qu'en Allah Azza wa Jal. À ne s'en remettre qu'à Allah. À ne craindre qu'Allah, etc. C'est de cette manière aussi qu'on évitera de tomber dans ce grand péché, dans ce grand piège, qui est le shirk. Et on le voit dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous donne des exemples d'éducation. Et à chaque fois qu'il nous donne des exemples d'éducation, la priorité des grands éducateurs, c'était quoi? La priorité des grands éducateurs qui ont été cités dans le Coran, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. S'éloigner du shirk. Luqman le sage, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, Ô mon fils, n'associe point à Allah, car l'association à Allah est une grande injustice. Et ensuite, plus tard, respecte tes parents et en particulier ta mère. Fais ta prière, sois patient, etc., etc. Mais d'abord, dans l'éducation, ô mon fils, n'associe point à Allah. Car l'association est le plus grave et le plus grand des péchés. C'est la priorité dans l'éducation. Si on réussit l'éducation d'un enfant dans le monothéisme, dans cette voie, le tawhid, le reste sera facile, le reste sera aisé. Tu peux faire confiance à ton enfant si tu l'as inculqué dans la crainte d'Allah, dans le fait de placer sa confiance en Allah. Même lorsque tu ne seras pas là pour l'encadrer, n'aie crainte, parce que tu lui as donné l'arme qui va lui permettre de surmonter tous les obstacles dans sa vie. Si tu dis à ton enfant, ne vole pas parce que si tu voles, je te punirai, la seule chose qui l'empêche de voler, c'est la punition. Lorsqu'il n'aura plus peur de la punition, il volera. Mais si tu lui dis, ne vole pas, ne commets pas tel péché, ne sois pas mauvais, parce que si tu l'es, c'est Allah Azza wa Jal, celui que tu dois adorer uniquement, lui sera en colère contre toi. Alors n'aie crainte, là où il se trouve, il se rappellera de cette parole qui est ancrée dans son cœur.
Si je le fais, Allah est en colère contre moi. Mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, mes éducateurs ne sont pas là, mes profs ne sont pas là. Mais si je le fais, Allah est en colère contre moi et Allah est toujours là. Voilà le résultat d'une éducation dans At-Tawhid. On le voit aussi dans un autre exemple dans le Coran avec Ya'qub, le prophète Ya'qub. Lorsqu'il était à l'agonie, les personnes qui sont à l'agonie et qui savent qu'ils vont mourir d'un instant à l'autre, leur dernière recommandation, c'est quoi? C'est l'héritage. Les enfants, les voisins, la voiture, etc. etc. Ya'qub, alayhi salam, Al-Qur'an, qu'est-ce qu'il nous dit? Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Et rappelle-toi lorsque Ya'qub s'est approché de la mort, lorsque la mort était à côté de Ya'qub, elle était sur le point de s'emparer de lui. Et qu'il dit à ce moment à ses enfants, à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Qui adorerez-vous après moi? C'est ça qui compte. C'est ça que je veux savoir. Est-ce que j'ai réussi mon éducation ou pas? Qui adorerez-vous après moi? Ils lui répondirent, nous adorons ton Dieu. Ton Dieu est le Dieu de tes parents, de tes ancêtres, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, le seul Dieu, l'unique, et nous sommes soumis à lui. Ya'qub put mourir tranquille. Parce que tout le reste, toutes les recommandations qu'on pourrait faire sur les enfants, sur l'héritage, on n'a aucune crainte à se faire si on a cette réponse. Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes parents, le Dieu de tes ancêtres, le Dieu unique, Allah Azza wa Jal. C'est donc la priorité. Il faut donc s'éduquer, éduquer nos familles dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal pour nous éloigner du shirk. Il faut également combattre les causes. Pour éviter le shirk, il faut combattre toutes les causes et tout ce qui est un moyen d'arriver au shirk. Et le premier des moyens qui conduit au shirk, c'est l'excès. L'excès dans les sentiments. L'excès dans l'amour. L'excès dans la crainte. L'excès dans le fait qu'on place confiance. L'excès, etc., etc. À un tel point que le savant Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans son célèbre livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, a fait un chapitre qu'il a intitulé Bab ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin. Le chapitre, il a intitulé ce chapitre le chapitre de tout ce qui prouve que la première cause de la mécréance des enfants d'Adam et du fait qu'ils abandonnent et délaissent leur religion, c'est avoir un excès dans les gens pieux. Un excès d'admiration, d'amour dans les gens pieux. Puisque comme on le sait, le premier shirk, comment il est apparu sur terre, ce sont des gens pieux. Ils étaient tellement respectés qu'après leur mort, on a fait des tombeaux ou on a fait des pierres pour nous rappeler ces gens-là. Nous rappeler comment ils vivaient, que nous aussi on vit bien. Et ensuite, génération après génération, l'admiration a augmenté, à un tel point qu'on s'est mis à adorer, non plus, même pas ces personnes-là qui étaient mortes, mais ces symboles, ces pierres qui représentaient ces personnes-là. C'est ça l'origine du shirk. Donc l'excès, c'est le premier moyen qui amène au shirk. À un tel point que le prophète Mohammed s.a.w. a dit « Iyakum wal ghuluwa fi d-din, fa innama halaka man qablakum bil ghuluwa fi d-din. » Prenez garde. Prenez garde contre l'excès dans la religion, parce que ceux d'avant vous n'ont péri qu'à cause de l'excès dans la religion, dans le culte qu'on peut donner à une personne ou à quelque chose, dans l'admiration qu'on peut donner à quelque chose ou à une personne. Parce que din en arabe, ça peut vouloir dire la religion, ça peut vouloir dire le culte, l'admiration. Enfin, dans les causes, dans les moyens d'éviter le shirk, on peut aussi parler des invocations.
évidemment les invocations. Toujours s'en remettre à Allah et invoquer Allah Azza wa Jal. L'implorer. L'implorer pour qu'il nous éloigne du shirk, du plus grave des péchés. On l'implore pour tout. On l'implore pour avoir un travail, pour avoir le permis, pour avoir le bac, pour avoir, pour se marier. Et on oublie le plus important, qu'il nous éloigne de ce qu'il ne pardonne pas, le shirk. Donc il faut implorer Allah Azza wa Jal, puisque l'invocation, c'est non seulement l'adoration, c'est donc le tawhid, l'invocation. Lorsqu'on invoque Allah, on revendique le tawhid, on revendique l'unicité d'Allah Azza wa Jal. On l'invoque lui. Et l'invocation, c'est une arme. Une arme et une protection. Il faut donc invoquer Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, les invocations des prophètes allaient dans ce sens. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ » Et lorsque le prophète Ibrahim, alayhi salam, dit, qu'est-ce qu'il dit Ibrahim, alayhi salam? Il dit, Ô mon Seigneur, fasse que cette cité, que cette contrée soit sacrée, yani Mecca, fasse qu'elle soit sacrée, et évite à moi et à ma progéniture d'adorer les idoles, d'adorer autre qu'Allah. Voilà son invocation. Et on va terminer pour montrer à quel point le shirk est grave et à quel point il peut s'être infiltré parmi nous. On va terminer par deux exemples de shirk. Le premier, l'ostentation. Ar-riya. L'ostentation. L'ostentation, le fait de faire un acte, de pratiquer une adoration ou de faire un acte pour autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est ça, ar-riya, l'ostentation. À un tel point, c'est grave, à un tel point que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar » La chose que je crains le plus pour vous, c'est la petite idolâtrie. Les compagnons ont demandé « Wa ma ash-shirkul asghar ya Rasulallah » Mais qu'est-ce que la petite idolâtrie, ô messager d'Allah? Il dit « Ar-riya » L'ostentation. Le fait de faire une action pour autre qu'Allah. Je prie, mais je prie pour que les autres disent que je prie. J'apprends la science, mais j'apprends pour avoir une réputation, pour devenir célèbre, pour que les autres disent, celui-là, il sait. Non seulement ton action n'est pas acceptée, mais en plus de cela, tu pratiques le shirk. Et tu ne t'en rends même pas compte. Au nom du tawhid, tu pratiques le shirk. Au nom de la prière, au nom de l'apprentissage de la science, au nom de tout ce que tu pourrais faire, tu pratiques le shirk. Puisque toutes tes actions sont basées sur la satisfaction d'autrui, sur l'agrément d'autre qu'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère la rencontre d'Allah, quiconque espère la rencontre d'Allah, qu'il pratique les bonnes œuvres et qu'il n'associe point à Allah dans son culte, dans son adoration. Dans l'adoration, on ne doit point associer Allah. Je pratique cette adoration, mais je la pratique uniquement pour Allah Azza wa Jal, pour rien d'autre. L'ostentation, c'est très grave. Très grave parce qu'elle peut démolir toutes nos actions, toutes les actions de toute notre vie. C'est pour cela qu'on doit quotidiennement, minute après minute, se surveiller et combattre tout sentiment d'ostentation. Nous sommes des humains. On peut être atteint à un moment ou à un autre d'un sentiment d'ostentation, mais dès qu'on le ressent, on le rejette. Et les savants nous disent, un acte qui débute pour Allah, mais qui se termine par l'ostentation, il est invalide. Mais si quelqu'un est pris d'un sentiment d'ostentation, mais il l'évacue tout de suite, il le refoule, eh bien lui, Allah Azza wa Jal, validera son acte. Donc ce qui compte, c'est de faire ce jihad, de faire ce combat contre l'ostentation. Et le plus grand des combats que Shaitan mène contre nous, c'est l'ostentation. L'ostentation. s'il n'a pas su nous faire délaisser notre prière, s'il n'a pas su nous faire délaisser nos actes d'adoration, alors il va s'attaquer à nos adorations pour qu'elles soient pour autre qu'Allah. Pour qu'elles soient nulles, invalides. On raconte, pour donner l'exemple, à quel point c'est grave l'ostentation. On raconte l'histoire d'un homme qui est rentré dans une mosquée. La mosquée était vide. Alors il s'est mis à prier. Il a lu à toute vitesse. C'était une prière à voix haute. Il a lu à toute vitesse. Même lui, probablement, il ne comprenait même pas ce qu'il disait, tellement il lisait à toute vitesse. Et il s'est mis à s'incliner à toute vitesse, à se relever à toute vitesse. Et au moment où il arrive à la deuxième unité de prière, il entend quelqu'un qui entre, des pas derrière. Donc là, la deuxième unité de prière, alors que la première, il avait mis 10 secondes, la deuxième unité de prière, il mettra 10 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un derrière. Et il se met à lire tout doucement, en méditant, avec un beau tajwid, en pleurant, ou plutôt en faisant exprès de pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, il y a quelqu'un qui est derrière, qui est en train de m'écouter. Et lorsqu'il termine la prière, il se retourne et il voit que c'est un chien qui est entré. Les savants disent que cette personne a prié pour un chien. Pour nous faire comprendre la gravité de l'ostentation. Ça aurait été un individu, ça aurait été autant grave. Il a prié pour un individu. Mais ça nous fait comprendre que cette prière n'a aucun sens. L'action qu'il a fait dans cette prière n'a aucun sens. Il l'a fait pour un chien. Deuxième exemple de shirk qui peut se répandre parmi nous, l'amour, le sentiment d'amour. Et on terminera par ça. On ne doit aimer plus que tout qu'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ » Et il en est parmi les gens qui aiment, qui prennent des égaux à Allah et les aiment comme ils aiment Allah. Il en est parmi les gens qui prennent des égaux, des associés à Allah et ils les aiment comme ils aiment Allah. Mais ceux qui ont la foi aiment Allah beaucoup plus. Écoutez bien ce verset. Il en est parmi les gens qui prennent des associés à Allah et ils les aiment comme Allah. Malheureusement, aujourd'hui, c'est bien pire que ça. Aujourd'hui, le sentiment de l'amour, c'est pas comme Allah. C'est plus qu'Allah. Et même l'amour dans le péché, c'est plus qu'Allah. Combien de jeunes aujourd'hui se disant musulmans, à l'âge de 14, 15, 16, 17, 18 ans, ont des aventures, des petites amies, et ils sont atteints par une pathologie grave qui s'appelle le hobbisme, l'amour. Et tu peux lui dire ce que tu veux, il ne t'entendra pas. Tu peux lui faire montrer ce que tu veux, il ne verra pas. Tu peux essayer de toucher son cœur est déjà pris par l'amour qu'il ressent pour une personne, non seulement dans le péché, puisqu'il n'a pas le droit avant le mariage, mais en plus un amour qui est indescriptible, imperceptible. C'est le shirk, le grand shirk. Aimer plus qu'Allah Azza wa Jal. Aimer une personne plus qu'Allah Azza wa Jal. Le savant Al-Qadi Ayyad disait « Man ahabba shay'an atharahu wa athara muwafaqatahu » Ce savant, il nous dit quoi ? Il nous dit celui qui aime quelque chose, qui l'aime vraiment, sans aucun doute, il fera passer cette chose-là avant tout et il fera passer son accord et son agrément avant l'agrément de tous les autres. Celui qui aime Allah plus que tout, il fera passer Allah avant quiconque. Même s'il ressent un quelconque sentiment pour une fille, ou si cette fille ressent un quelconque sentiment pour un garçon, s'il sait qu'il est dans le péché, si elle sait qu'elle est dans le péché, si ces deux personnes aiment vraiment Allah plus que tout, ce péché les répugnera. Il les dégoûtera. Et donc ils feront passer l'agrément d'Allah avant l'agrément de la personne qu'ils aiment. Ça, c'est celui qui aime Allah plus que tout. Mais celui qui aime la personne plus que les autres et même plus qu'Allah, il fera passer la personne avant Allah. Après, on peut dire ce qu'on veut comme argument. Et on en entendra des arguments. Mais non, mais moi, c'est pas la même chose. Et moi, c'est pour le mariage. Et patati, et patati. Vous pouvez dire ce que vous voulez. À partir du moment où on a conscience qu'on est dans le péché. Et qu'on se résigne et s'obstine dans ce péché. On a fait passer une personne avant Allah. Et donc, on a commis le grand shirk. Ne croyez pas que le grand shirk, c'est juste se prosterner devant des murs, devant des pierres, devant des tombes. Cet exemple, c'est un exemple de grand shirk. Et qu'il est répandu parmi nos jeunes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait, quelqu'un qui aimera dans le péché, Allah le châtira et le punira dans cet amour. Mais il ne s'en rend même pas compte. Il vit une vie éprouvante, de difficultés, de gêne, une vie qui est loin de la bénédiction. Mais il ne s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce qu'il est aveuglé par le péché. Je terminerai par cette parole, la parole de Al-Uthaymin rahmanullah qui dit à propos de cet exemple, l'exemple de l'amour. Il dit Aslul a'mal kulliha al-mahabba. فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب. L'origine, la base de toute action, c'est l'amour. C'est l'amour. On ne peut faire une action juste que pour l'amour. Parce qu'on aime quelque chose ou parce qu'on aime, à travers cette action, arriver à quelque chose. Il faut donc cultiver l'amour d'Allah, parce que c'est la base de l'adoration. Quand on aura cultivé dans notre cœur l'amour d'Allah et qu'on aura obtenu un amour pour Allah plus que tout autre amour, toutes nos actions seront faites pour Allah. Et c'est pour cela que le prophète sallam disait « Man ahabba lillah, wa abrada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah » فَقَدْ إِسْتَكْمَلَ الْإِمَانِ. Celui qui aime mais n'aime que pour Allah, et celui qui déteste mais ne déteste que pour Allah, celui qui donne mais ne donne que pour Allah, et celui qui prive mais ne prive que pour Allah, il a complété la foi, l'intégralité de la foi. Il a complété l'intégralité de la foi. Allah Azza wa Jal dit, à propos de l'amour qu'on doit cultiver uniquement pour Allah Azza wa Jal, il dit, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. دي الله عز وجل nous ordonne de dire, et donc de dire, de répéter, d'appeler, de transmettre, d'appliquer, de croire. Nous ordonne de dire, dis, si vos parents, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos richesses que vous gagnez, vos commerces pour lesquels vous craignez la ruine, et vos demeures qui vous sont confortables, dis, si toutes ces choses-là vous sont plus chères qu'Allah et son messager, et que le combat dans son sentier, alors attendez. Que le châtiment d'Allah ne s'empare, que le châtiment d'Allah s'abatte sur vous. Attendez, le châtiment d'Allah arrive. L'amour d'Allah doit être plus fort que tout. Il doit être plus fort que tout. Et j'ai pris ces deux exemples, l'ostentation et l'amour, parce que ce sont des shirks qui sont les plus répandus et nous ne nous en rendons même pas compte. بارك الله فيكم pour votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
بارك الله فيك نورزين pour ton intervention. On va passer aux questions réponses. Donc alors, est-ce que parler d'Allah sans science est du grand ou du petit shirk? Sourate 7 verset 33.
Je n'ai pas cette sourate.
Est-ce que parler d'Allah sans science, c'est du grand shirk ou du petit shirk? Ça dépend de la personne et de son intention. Si la personne parle d'Allah et ment à propos d'Allah, et il sait qu'il ment à propos d'Allah et qu'il n'a aucune science, et il le sait, sans aucun doute, c'est du grand shirk. Quant à celui qu'il parle en voulant faire du bien et pense savoir mais ne sait pas, celui-là, il n'est pas dans le grand shirk, il est dans l'ignorance. Et il faut qu'il soit réveillé par ceux qui l'entourent. Wallahu a'lam.
Pour les musulmans qui travaillent dans leur majorité, sont contraints de rattraper leurs prières le soir, est-ce que cela entre dans le cadre du shirk? Peur du patron et non d'Allah en quelque sorte.
Si la personne a ce sentiment d'avoir peur du patron plus qu'Allah, etc., sans aucun doute ça rentre dans le shirk. Mais ici, c'est un autre problème qui se pose à nous. Le problème des heures de prière, ou plutôt le problème de l'application et la pratique des prières sur le lieu de travail et pendant les heures de travail. Les musulmans doivent tout faire. Les musulmans et les musulmanes doivent tout faire pour prier à l'heure. Ça doit être le combat de toute leur vie. Prier à l'heure. Et s'ils ne peuvent pas, pour une raison valable, alors ils ont des marges dans les horaires. Le dhuhr peut se prier jusqu'à l'heure de l'asr. Le asr jusqu'à l'heure de l'maghrib. Dans le pire des cas, et c'est ce que l'imam Nawawi rahmallah appelait le cas de nécessité, le cas de contrainte, ils rassemblent. Ça c'est le cas de contrainte. C'est-à-dire le cas extrême. Et après ça, il n'y a plus d'extrême, il n'y a plus de cas. C'est-à-dire il n'est pas permis de prier dhuhr et l'asr après le coucher du soleil. Le musulman doit tout faire pour les prier à l'heure. S'il a une raison valable, il a la marge d'horaire pour dhuhr jusqu'à l'asr, l'asr jusqu'à al-maghrib. Et au pire des cas, il rassemble. Mais après cela, il ne peut pas faire ses prières après le coucher du soleil. Wallahu a'lam.
Donc, l'Ofik. Alors, excuse-moi, Nandine, parce qu'il y a...
Pas de problème.
Quel est donc le rôle des imams et des responsables des mosquées dans cet enseignement et s'ils ne l'enseignent pas?
Le rôle de la mosquée et de tous les acteurs de la mosquée doit être en priorité un rôle éducatif et un rôle d'exhortation et de transmission de ce message. Le premier message qu'on transmet, c'est le premier message qu'ont transmis les prophètes. Allah Azza wa Jal dit, à chaque fois que nous avons envoyé un prophète, nous lui avons ordonné de transmettre et de dire qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah. Ça doit être le rôle de la mosquée et de tous les acteurs de la mosquée. Wallahu a'lam.
Est-ce que le fait d'aller au cinéma, donner du temps à une activité qui peut éloigner d'Allah est considéré comme un petit shirk?
Non, il ne faut pas mélanger les moments entre guillemets de divertissement. L'individu peut avoir des moments de divertissement. Tant que ce moment de divertissement ne l'empêche pas d'appliquer un acte obligatoire. Il n'y a aucun mal. Ça ne rentre pas dans le shirk. Tant que ce divertissement ne lui fait pas rater une obligation et ne le fait pas commettre un interdit. Wallahu a'lam.
Tu as un peu répondu, mais bon, peut-être que la personne n'était pas là à ce moment-là. Si nous étions dans l'ignorance avant en faisant du shirk mineur sans le savoir, peut-on être pardonné, Inch'Allah?
Non. Yani, comme on a dit, quand on dit qu'Allah Azza wa Jal dit que le shirk est impardonnable, qu'il soit majeur ou mineur, c'est-à-dire sans le repentir. La condition pour qu'il soit pardonné, c'est qu'il y ait un repentir sincère. Si la personne se repentit, Allah Azza wa Jal lui pardonne. Mais s'il ne se repentit pas, Allah Azza wa Jal ne lui pardonne pas. Alors que les autres péchés, comme on a dit, même s'il ne se repentit pas, il peut-être Allah Azza wa Jal lui pardonnera. S'il veut, il lui pardonnera. Et s'il ne veut pas, il ne lui pardonnera pas. Wallahu a'lam.
Le fait de dire 100 fois Subhanallah wa bihamdih efface-t-il le shirk? Barakallahu fik.
Fika barakallah. Non, ça n'efface pas le shirk. Le shirk, pour l'effacer, comme on a dit, il faut qu'il y ait le repentir. Donc ça ne suffit pas de répéter Subhanallah wa bihamdih 100 fois. Il faut se repentir. Le repentir, c'est quoi? C'est d'abord prendre conscience que c'est grave et que c'est le plus grave des péchés. De l'arrêter immédiatement dès qu'on en a pris conscience. D'avoir la ferme intention de ne plus jamais le commettre, ce péché. Et multiplier les bonnes actions pour effacer ce péché. C'est ça le repentir. C'est pas juste parce qu'on aura répété des formules une centaine de fois, comme on peut voir dans certains livres qui sont édités par des maisons d'édition ahurissantes. Répète autant de fois cette chose-là et tu verras quelque chose tomber du ciel ou je ne sais quoi. Non. C'est le repentir. La personne, elle se repentit sincèrement et Allah Azza wa Jal lui pardonnera. Wallahu a'lam.
Salam alaikum. J'ai ce problème de prière rapide. Comment j'ai la bonne intention? Enfin, j'ai la bonne intention, mais comment essayer de me corriger?
Il faut se forcer tout d'abord à être plus lent pour une personne qui prie trop rapidement. Et il faut prendre conscience du sens et de la signification de cette prière. Qu'est-ce que je fais quand je prie? Si pour moi cette prière c'est juste une série de gestes dont je dois m'acquitter pour être débarrassé, alors sans aucun doute on pourra dire ce qu'on voudra à cette personne, il la fera toujours aussi rapidement. Mais si la personne prend conscience que ses actes symbolisent une soumission devant Allah, une humilité devant Allah, s'il prend conscience que cette prière symbolise qu'il entre en communication avec Allah, qu'il est en train de parler avec Allah, alors il la fera tranquillement, sereinement. Quelqu'un qui parle au téléphone avec quelqu'un, s'il aime cette personne, il voudra faire durer le plus longtemps possible cette communication, parce qu'il aime parler avec cette personne qu'il n'a pas l'habitude de voir. Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre, si tu prends conscience que tu l'aimes, et qu'en priant tu es en contact avec lui, tu communiques avec lui, si tu cultives dans ton cœur cette prise de conscience, tu prieras convenablement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, lorsqu'il lui ordonnait de faire le adhan, il lui disait pas va faire le adhan. Il lui disait pas va faire l'appel à la prière. Il lui disait arihna biha ya Bilal. Apaise-nous à travers elle, c'est-à-dire à travers la prière, ô Bilal. Parce que la prière apaise. Et aussi, un autre et dernier moyen pour prier correctement, c'est de prendre conscience de ce qu'on dit dans la prière. C'est pas juste on récite le Fatiha sans prendre conscience du sens. Récite le Fatiha et prends conscience de ce que tu es en train de dire. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Allah. Prends conscience de ce que tu es en train de dire. Et sans aucun doute, tu prieras convenablement. Wallahu A'lam.
Alors, un sujet d'actualité avec tout le climat qu'on est en train de vivre. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a encore 4 personnes qui se posent la question. Est-ce que le vote, c'est du shirk? Voilà. Alors, c'est pas vraiment exactement la même question, donc, mais bon, ça revient dans le même sens. Donc, est-ce qu'on peut voter pour un non-musulman? Est-ce que tous les candidats sont islamophobes? Est-ce que c'est du shirk? Peut-on voter? Et là, c'est pour un candidat, voilà, et qui vote des lois autres que celles d'Allah. Voilà.
C'est une question compliquée parce que c'est une question polémique. Ala kulli hal, les savants ont répondu à cette question. Il y a 2 opinions qui ressortent. La première, l'opinion des savants qui considèrent qu'il est interdit de voter quand on vote pour des individus qui ne sont pas musulmans ou pour un système qui ne gouverne pas selon les lois d'Allah. Et il y a une autre opinion qui dit qu'il faut voter ou qu'il est au minimum permis de voter même dans les pays non musulmans et même pour un système non musulman. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on appelle fiqh al-maqasid, la jurisprudence des objectifs. Prendre en compte les intérêts, les avantages et prendre en compte les inconvénients. Est-ce qu'il y a plus d'intérêts à voter ou plus d'inconvénients à voter? Et selon cette deuxième opinion, c'est un inconvénient de dire qu'on ne vote pas. Pourquoi? Parce que ça permettrait, même si certains pourraient considérer que tous les candidats sont les mêmes et qu'ils sont tous contre l'islam, etc., etc., même si on considérerait ça, qu'ils sont tous mauvais, ça permettrait au pire de passer. Et si le musulman peut faire passer le moins pire, il est de son devoir de faire passer le moins pire, pour qu'il ne soit pas responsable d'une quelconque situation d'oppression encore plus contraignante pour les musulmans qui vivent sur ce sol. Wallahu a'lam, il y a ces 2 opinions. Celle qui me convainc le plus, moi personnellement, c'est la deuxième. Après, libre à chacun d'être convaincu par une ou par une autre, et ça ne doit en aucun cas être un objet de polémique ou de discorde ou de division entre nous. À chaque fois qu'on va tirer des sujets sur lesquels les savants ont divergé, on pourra parler pendant des années, débattre pendant des années, polémiquer pendant des années, ça ne changera en rien le fait que les personnes qui ont largement beaucoup plus de sens que nous, qui ont passé toute leur vie à étudier, ils ont tous leurs arguments et ils ont tous été convaincus par leur opinion. Alors pourquoi on débattra et on polémiquera et on se divisera sur le sujet alors que les savants eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le sujet? Étudie la question, sois convaincu par un avis et ensuite retiens ta langue. Wallahu a'lam.
Moi j'ai une question, je vais en profiter, hein, je vais la poser directement. Comment on doit être dans notre esprit quand tu as parlé par exemple du médecin qui nous donne un traitement. Donc on, celui qui nous guérit c'est Allah, mais il y a un hadith qui dit aussi celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah.
Non.
Donc comment on doit être par rapport à ces deux paroles?
Non. Et pour résumer la situation et le sentiment du musulman face à une situation telle que cet exemple qui a été cité par le frère, qui le malade qui va chez le médecin. Il va chez le médecin parce que c'est quelque chose qu'il doit faire. Pour placer sa confiance en Allah et s'en remettre à Allah, il doit faire des efforts. Et parmi faire les efforts, c'est faire un acte, une cause qui est permis, dont on sait par expérience qu'elle peut amener, si Allah le veut, à la guérison. Et parmi ces causes, il y a le fait d'aller voir le médecin. Donc en allant chez le médecin, le sentiment que je dois avoir, c'est que je suis en train de faire quelque chose qu'Allah m'a demandé de faire. Puisque le tawakkul, comme les savants nous disent, c'est deux choses. C'est faire la cause et s'en remettre à Allah. Faire la cause et placer sa confiance en Allah. C'est pas juste, je dis, je place ma confiance en Allah et j'attends que ça tombe du ciel. Même les prophètes faisaient les causes. Donc je dois faire la cause. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je dois avoir la conviction, la certitude, que c'est ce médecin pourra être la cause de ma guérison ou le médicament qu'il va me donner, uniquement et seulement si Allah le lui permet. C'est dans ce sens-là. Après, évidemment, ça c'est un autre sujet, remercier les gens, être reconnaissant envers la personne qui t'a fait un bien. On est d'abord reconnaissant envers Allah. Et on sait que tout ce bien ne nous vient que d'Allah. Mais on remercie cette personne qu'Allah a mis sur notre chemin, on lui est reconnaissant. Parce que si Allah l'a mis sur notre chemin, c'est qu'il méritait, lui, de faire ce bien et qu'il en était digne. C'est Allahu A'lam dans ce sentiment que le musulman doit être lorsqu'il fait les causes et lorsqu'il veut être reconnaissant et remercier les gens. Wallahu A'lam.
On va s'arrêter là. Je sais qu'il y a eu d'autres questions, d'autres qui n'étaient pas dans le thème d'aujourd'hui. Donc je les ai mis à part si on avait le temps. Peut-être qu'on prendra, ça dépendra les frères, où est-ce qu'ils en sont pour la suite. Donc la suite, c'est que vous êtes invités, vous êtes tous invités à manger. Vous êtes invités pour une naissance. Donc il y a un frère qui a eu une naissance et par deux par une personne qui fait une sadaqa pour deux personnes malades qui demandent vos deux achats. Les rendez-vous, les prochains rendez-vous, donc le 21 avril. Donc nous, on est plutôt du deuxième avis. Donc on vous invite à voter, hein, surtout dans ce climat actuel. Hein, on ne sent pas bien avec ce qui se passe. Hein. Donc faut qu'on leur montre que... Donc on ne vous dit pas pour qui voter, vous vous débrouillez. Hein. Par contre, bon, soyez intelligents, Inch'Allah. Et le 27 avril, à Ekoda, il y a Rachid Haddash qui est présent. Donc ça, les infos supplémentaires viendront après. Chez nous, la prochaine conférence, donc fin mai, là aussi les infos à venir. Donc c'est Tariq Ramadan qui sera chez nous, Inch'Allah. Et donc n'hésitez pas à consulter le site, Inch'Allah, sur le site internet de la mosquée pour vous mettre au courant.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.